Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Une semaine après leur arrivée à Toulon, les migrants de l'Ocean Viking à nouveau à la une. 26 mineurs isolés ont fugué. Une centaine d'adultes peuvent, eux, circuler désormais librement, faire leur demande d'asile. C'est la loi. Mais elle percute le discours très ferme du ministre de l'Intérieur sur le sujet. On y reviendra longuement tout au long de ce RTL Midi. À suivre également la SNCF qui présente ses nouveaux tarifs. Le TGV sera plus cher, mais moins que ce que l'on pouvait redouter grâce à un bouclier tarifaire. Jonathan s'entend bien avec Guy Georges. Au lendemain des déclarations de la mère de Jonathan Daval sur RTL, on vous emmènera dans la prison d'Ensisheim à 12h40. C'est là, en Alsace, que le meurtrier d'Alexia purge sa peine en compagnie des plus célèbres tueurs français. Une prison pas tout à fait comme les autres, vous verrez. RTL toujours plus proche de vous. Dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous. Aujourd'hui, on part pour Marseille et le célèbre quartier fictif du Mistral. Alors que les derniers épisodes de Plus belle la vie seront diffusés ce soir, les fans peuvent encore visiter les décors. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Le mondial, c'est après-demain. Mais comment suivre tous les matchs? Quel engouement pour la compétition? On vous dira tout. Juste avant 13h, LVT Midi. Aujourd'hui, Paul Naref chante Paul Naref à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Seul au piano. Il se confie à Steven Bellery. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr. Prenez-vous toujours le train pour vos longs déplacements?
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. On sera avec Jean-Michel Rascol vers 13h05 avec cette question. Est-ce que les Français sont menteurs lorsqu'ils disent que simplement un quart des amateurs de foot vont bouder la compétition, même si les Bleus vont loin?
Avant ça, la météo avec vous, Claire Delorme, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Claire?
Ça sera gris partout en France et surtout instable dans le sud-ouest avec des averses nombreuses et localement soutenues. Partout ailleurs, des averses plus rares. Le soleil restera de mise en Méditerranée et des températures en légère baisse en moyenne, comprises entre 11 et 14 degrés.
Merci Claire, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Comment continuer à faire préférer le train aux Français et ne pas faire flamber le prix de leurs billets? La SNCF a présenté son bouclier tarifaire pour les TGV ce matin. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Vous avez suivi ça pour nous. Alors la bonne nouvelle pour les voyageurs, c'est que la hausse des prix sera limitée.
Oui, à 5% en moyenne, une hausse qui s'appliquera aux tarifs pro, les abonnements professionnels, ainsi que sur les billets de première classe et les billets loisirs en seconde classe. Pas d'augmentation en revanche des tarifs Ouigo, un TGV sur 5. Pas d'augmentation des premiers prix sur TGV Inouï, les billets les moins chers. Pas d'augmentation pour la carte Avantage et ses plafonds, ni pour les abonnements TGV Max Jeune et Max Senior. Alors un exemple, ce matin, sur un Paris-Lyon, le Ouigo était à 16 euros. Le premier prix TGV Inouï à 25. Eh bien ça, pas d'augmentation. Le billet le plus cher était proposé, lui, à 99 euros. Et là, il va pouvoir augmenter en moyenne de 5%. Mais ça ne compensera pas l'augmentation des dépenses de la SNCF liée à l'énergie et à l'inflation. Il aurait fallu pour ça répercuter sur tous les tarifs TGV une hausse de 13%.
16 euros un billet pour faire Paris-Lyon, ça?
Le Ouigo.
J'ai l'impression que moi c'est plus cher.
Ça dépend des moments de la journée et du remplissage du train.
Sans doute. Bon, alors sur quoi la SNCF va-t-elle se rattraper?
En remplissant les TGV au maximum. La gratuité pour l'échange ou le remboursement d'un billet ne sera plus jusqu'à J-3, mais J-6 pour libérer les places plus tôt et pouvoir les réattribuer. Et au-delà de J-6, les frais d'échange ou de remboursement seront de 19 euros au lieu de 15.
Et ces nouveaux tarifs, Marie, ils débutent quand?
Sur les achats qui se feront à partir du début janvier et du 10 janvier et puis début février pour les nouvelles modalités d'échange et de remboursement.
Merci beaucoup Marie Guerrier.
RTL Midi.
Une semaine après avoir débarqué à Toulon, une grande partie des migrants recueillis par l'Ocean Viking sont libres de leur mouvement.
La justice a en effet statué après 4 jours passés dans la zone d'attente internationale. Elle devait se prononcer sur leur sort. Ils peuvent désormais quitter cette zone dans laquelle ils étaient maintenus et faire une demande d'asile. On apprend par ailleurs que 26 des 44 mineurs isolés recueillis se sont, eux, enfuis, souvent pour retrouver amis ou familles dans les pays du nord de l'Europe. On reviendra longuement sur cette situation juste après le journal.
Le procès des découpeuses à présent, avec ce matin les explications de Jessica à la barre.
C'est l'une des deux principales accusées. Elle est soupçonnée d'avoir, avec une amie, tué et découpé le compagnon de celle-ci. a mis le mot, et d'ailleurs peut-être un peu fort. Jessica a donc raconté ce matin comment elle estime avoir été manipulée, Anne Le Hennaff.
Oui, autant Céline alternait hier sanglots et longs gémissements, autant Jessica parle d'une voix calme et posée. Céline était son esthéticienne. C'est devenu une amie, une copine, plutôt une copine, répond Jessica, qui lui parle de son compagnon de plus en plus violent, de plus en plus dangereux, même si ça n'a jamais été prouvé. Je décide de l'aider quand elle me dit qu'il s'en prend à leur fils. Parce que moi, enfant, mon père m'a fait manger mon vomi parce que j'avais trop cuit le riz. Elle me dit qu'elle est en danger, que maintenant c'est lui ou elle. Une fois que j'avais donné mon accord, je me sentais redevable, je ne pouvais pas revenir en arrière. Elle va donc tuer et démembrer un homme qu'elle n'a jamais vu, qui est déjà sonné quand elle arrive par les médicaments que sa compagne lui a fait avaler. Céline m'avait dit qu'il ne manquerait à personne, qu'il n'avait pas de famille. J'ai découvert depuis qu'il avait des frères, une fille. Cette fille de 21 ans la regarde, assise en face d'elle. Je m'en veux énormément. J'ai vendu mon âme au diable. Je leur demande pardon, notamment à sa fille. Je sais ce que ça fait de grandir sans père. Même si ça ne sert à rien de dire ça, il ne reviendra pas. La présidente lui demande « Vous pensez que votre geste est pardonnable ?» Jessica répond « Non, sans hésiter. »
Compte rendu d'audience signé Anne Le Hennaff pour RTL.
Après le missile tombé en Pologne en début de semaine qui a inquiété tout l'Occident, aujourd'hui ce sont vers les tirs de missiles nord-coréens qui inquiètent.
Mais à quoi joue Pyongyang ? Réunion d'urgence aujourd'hui à Bangkok en marge du sommet de l'APEC qui réunit tous les pays de l'Asie du Sud-Est, mais aussi les États-Unis et la France. Après le tir, effectivement, cette nuit d'un missile balistique intercontinental qui s'est échoué, Philippe Dova, tout près des côtes japonaises.
Oui Céline, dans la zone économique exclusive du Japon, à 200 km de l'île d'Oshima, à Hokkaido, et le plus inquiétant, d'après l'état-major sud-coréen, c'est que ce type de missile, avec un angle de tir normal, pourrait parcourir une distance de 15 000 km et frapper le territoire américain. En réponse à cette nouvelle provocation, des avions furtifs sud-coréens et des chasseurs F-16 de l'US Air Force ont mené des exercices de simulation d'attaque de véhicules lanceurs de missiles nord-coréens en utilisant des bombes à guidage laser. Alors ce nouveau tir est la réaction de colère nord-coréenne à la réunion trilatérale entre Joe Biden, le président sud-coréen et le premier ministre japonais dimanche dernier à Phnom Penh, au cours de laquelle le président américain avait confirmé l'engagement de son pays à renforcer la sécurité de ses alliés dans la zone par tous les moyens militaires, y compris nucléaires, si besoin. Ce soir, à Bangkok, à l'issue de la réunion d'urgence, les dirigeants japonais, américains, sud-coréens, canadiens, australiens et néo-zélandais ont fermement condamné et jugé inacceptable ce nouveau tir de Pyongyang.
Philippe Dova en Asie pour RTL.
Le sport, et ce n'est pas du football. L'équipe de France féminine de handball en demi-finale de l'Euro ce soir.
Oui, ce sera face aux Norvégiennes, championnes du monde, qui ont prévu l'an dernier les Bleues, championnes olympiques, elles, du titre mondial, une finale avant l'heure donc. Mais Estelle Nzeminko, la capitaine, se veut confiante.
La réalité, c'est que si on joue contre la Norvège aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a fini deuxième, nous, c'est elle qu'on finit deuxième. Que ce soit nous ou que ce soit elle, on essaye de s'éviter au maximum. Faut y aller. À fond, faut pas trop se poser de questions et surtout en fait ça serait trop con de se mettre une pression de malade parce que c'est la Norvège. Je préfère qu'on capitalise sur le parcours qu'on est en train de faire là, plutôt qu'on se mette tout de suite un maxi frein en mode on joue les Norvégiennes. Bah oui, on joue les Norvégiennes, mais dans un contexte où on est bon quoi.
Faut aller jusqu'au bout quoi.
Et la rencontre pour aller jusqu'au bout, donc ce sera ce soir à 20h30. La météo, on vous retrouve Claire Delorme pour un après-midi que vous nous promettez Mossad.
C'est exact, et surtout de l'instabilité encore bien présente en direction de la Manche et surtout l'arc atlantique où les averses seront quand même nombreuses et localement orageuses. Nous aurons au niveau du Pays Basque des averses d'ailleurs beaucoup plus fréquentes avec des cumuls de pluie localement plus conséquents. Partout ailleurs, un ciel également très chargé. En revanche, avec des averses qui auront tendance à se raréfier, de la pluie et surtout donc de la neige évidemment en altitude à partir de 1200 mètres, mais ça restera très local. Bref, pour le soleil, eh bien, direction les Alpes du Sud, la Méditerranée, le Languedoc-Roussillon, la Corse, où les éclaircies seront vraiment très franches et un ciel un petit peu plus sec, et puis surtout avec quelques éclaircies qui auront tendance à devenir là aussi de plus en plus généreuses vers le centre-Val de Loire en remontant vers le bassin parisien. Les températures, quant à elles, sont en légère baisse, particulièrement dans le sud-ouest. On perd localement jusqu'à 5 degrés. On aura donc 14 degrés à La Rochelle, 13 degrés à Agen, 14 degrés à Bordeaux. Il fera 12 degrés à Paris, 12 degrés également à Brest, 11 degrés à Dijon et tout de même jusqu'à 20-22 degrés vers Marseille, Toulon et Nice.
Merci Claire.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, effectivement, chaque jour l'info au plus près de vous. Et comme vous l'annonciez tout à l'heure, nous allons partir pour Marseille, Céline.
Exactement. Bonjour Étienne Venu.
Bonjour Céline et Pascal, bonjour à toutes et à tous.
Vous connaissez la musique, Pascal ? 18 ans que la France vit les yeux rivés vers le quartier fictif du Mistral. Alors que les derniers épisodes de Plus belle la vie, la plus longue série jamais produite en France, dont vous avez entendu le générique, alors que les derniers épisodes donc seront diffusés ce soir sur France 3, une bonne nouvelle pour les fans. Ils peuvent encore se consoler pendant une semaine, Étienne, en visitant les studios et les décors du tournage.
Oui, ils sont plusieurs centaines de fans à s'être inscrits sur les listes. Ils viennent de partout en France, hein, par groupe de 15. Ils sont guidés par des techniciens ou des personnes qui ont travaillé sur Plus belle la vie. Au programme, les deux seuls décors encore debout. D'abord, le commissariat, avec ici le bureau du commandant debout, vous savez. Et là, l'ancien bureau de Castelli, maintenant occupé par Boer. J'espère que vous suivez. Et puis, au fond, la cellule. Et c'est avec un pincement au cœur que Frédéric et ses deux filles de 11 et 14 ans se prennent en photo dans la cellule, justement.
Moi, je regarde depuis le début, donc ça fait bizarre quand même. Elles les ont toujours regardées depuis qu'elles sont dans mon ventre. Donc elles ont l'habitude aussi de voir tout le temps Plus belle la vie le soir. Donc ça va faire bizarre quand ça va s'arrêter.
Et puis il y a aussi la fameuse place du Mistral. C'est bien ça?
Oui, évidemment, et les visiteurs n'en perdent pas une miette. Ils suivent Marianne, qui est à la manœuvre pendant 18 ans. Marianne a été coach d'acteur dans la série, et le clou, c'est donc la place et ses 1000 mètres carrés de décor.
Et voilà, n'hésitez pas, entrez dans le bar.
Ce que n'hésitent pas à faire Laetitia et Mickaël, qui eux non plus n'ont pas loupé un seul des 4665 épisodes. Derrière le bar, Mickaël se prend, lui, pour le fils adoptif du patron, Roland Marcy.
Thomas, moi je suis Thomas. Moi. Franchement, c'est impressionnant. C'est petit, c'est incroyable. C'est vraiment bien fait, la lumière du jour c'est vraiment bien fait.
Bah, on a vu le commissariat, on a vu tout le reste, donc c'est trop bien. C'est un rêve de gamine en fait.
Un rêve aussi pour Valérie. Avec son fils Rudy, ils sont venus exprès de la Marne, près des Pernets. Ils ont même réservé 4 visites pour ne rien rater. Et Valérie est bluffée.
Bah, en fait à la télé on pense que oui, salle de bain, douche, il y a tout ce qu'il faut. Là ils passent la porte, on a l'impression qu'ils vont dans une autre chambre. Et en fait il n'y a rien.
Si vous levez la tête.
Bah oui, il n'y a pas de plafond. Non mais ça aussi ça m'a... Bah, on a l'impression que c'est des vrais appartements, tout ça. Et en fait non, tout est irréel.
Irréel, c'est le terme, Étienne. Alors, on l'entendait au début.
La série aussi est irréelle.
Bon ?
Non, mais voilà, il y a quelque chose d'étonnant dans cette série, disons-le.
Et dans sa longévité, effectivement. Alors, on l'entendait, Étienne, au début de votre reportage, les fans sont tristes, comme Pascal, que cette série s'arrête. Ceux qui travaillaient sur Plus belle la vie, pour eux aussi, c'est un crève-cœur ?
Ah oui, un vrai crève-cœur. Écoutez Marianne, mais aussi Claire, la productrice, et Elena qui s'occupait du planning des tournages.
La dernière visite, là, aujourd'hui, mais c'est hyper émouvant, ouais. On a l'œil mouillé un peu, voilà.
Moi, je viens d'aller valider les deux making-of du web et je me suis retapé tous les derniers claps et j'ai repleuré.
Moi, je suis très heureuse de voir les étoiles dans les yeux des gens. Ça m'émeut énormément et je me dis, ouais, voilà, ça valait la peine et on leur doit ça aussi.
Et puis Étienne, une petite surprise attend les visiteurs. À la fin, ils peuvent acheter un petit souvenir de la série.
Oui, alors pas un morceau de décor, hein, puisqu'ils vont être démontés et recyclés, non. Les fans peuvent acheter des vêtements et des accessoires de tous les jours, mais que les acteurs ont portés. Et Rudy, fan absolu, a fait ses emplettes.
J'ai acheté un jogging de Kevin Bellesta et des t-shirts. C'était qui, Kylian, je crois, et Francesco. Bon, je trouve ça bien, c'est le dernier souvenir, ça clôture voilà, l'histoire.
Voilà une histoire qui aura donc duré 18 ans. Mais certains des visiteurs ne désespèrent pas de voir renaître un jour la série.
On suivra ça si elle revient. On ne rattrape pas le comeback, Pascal.
Exactement. Faut que j'envoie
vous
quelques-uns.
Vous avez 18 ans à rattraper. Ouais, hein.
Ça va pas être long. Ça va pas être simple. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On revient sur le sort des migrants de l'Ocean Viking. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Une semaine après leur débarquement à Toulon, nouvelle polémique dans le dossier Ocean Viking, puisque 26 des 44 migrants mineurs isolés pris en charge en fuguée, une centaine d'adultes, eux, vont pouvoir quitter librement la zone d'attente internationale de la presqu'île de Gien, dans laquelle ils étaient jusque-là maintenus sans que leur cas n'ait pu être examiné par la justice dans les temps. Pour en parler avec nous, Guillaume Chies du service police-justice d'RTL, bonjour.
Bonjour.
Et Marie-Bénédicte du service politique. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer peut-être, Guillaume, par revenir sur le cas de ces mineurs isolés, 26, on vient de le dire, dont on a appris hier qu'ils s'étaient volatilisés.
Oui, en fait, ils étaient libres de partir, hein, puisque c'est la loi en France. On ne peut pas enfermer un mineur qui est un mineur non accompagné. Donc, les 44 enfants à bord de l'Ocean Viking ont été pris en charge par le département du Var. Ils ont été installés il y a 6 jours dans un hôtel à Toulon, le temps d'évaluer leur situation. Et c'est depuis cet hôtel qu'ils ont fugué progressivement. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 18. Les 26 autres enfants sont donc dans la nature, livrés à eux-mêmes. Selon les autorités, ils seraient en route pour l'Allemagne, la Norvège ou la Suède, des pays dans lesquels ils ont indiqué qu'ils avaient soit de la famille, soit des amis qui pourraient s'occuper d'eux.
Et puis il y a aussi 190 majeurs dans ces rescapés de l'Ocean Viking et on apprend qu'une centaine d'entre eux ont été remis en liberté.
Exactement, la justice de Toulon avait décidé que leur demande n'avait pas été étudiée dans les temps. Je vous rappelle la règle, hein, les autorités françaises pouvaient maintenir 4 jours ces personnes dans la zone d'attente internationale de J1 avec la possibilité de prolonger 2 fois 8 jours, mais les délais ont été dépassés. Hier et avant-hier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc dû se prononcer sur le cas de 108 personnes, des audiences massives, un traitement ultra rapide. Je vous laisse imaginer, pour chacun d'entre eux, il fallait un avocat, un interprète, un magistrat pour traiter le dossier. Bref, la décision est quasiment la même pour tous ces rescapés. Leur maintien de force dans la zone d'attente internationale de J1 est illégal.
Qu'est-ce qui va se passer pour eux maintenant, alors, Guillaume ?
Alors, désormais, ils peuvent quitter la zone d'attente internationale s'ils le désirent. Ils peuvent également faire une demande d'asile. La police aux frontières va leur délivrer un document que l'on appelle un sauf-conduit. Ce document leur donnera la liberté de circuler librement dans l'espace Schengen. D'ailleurs, 11 pays européens ont déjà proposé leur aide à la France pour accueillir ces réfugiés.
Marie-Bénédicte Allaire, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'était montré très ferme dans les conditions d'accueil de ces migrants. Est-ce que c'est un camouflet pour lui, ce qui se passe ?
C'est évident que ça le met en difficulté dans sa tentative d'incarner l'autorité, même si, comme le disait Guillaume, la loi est la loi et qu'il n'est pas responsable de tout, notamment des conditions d'accueil du département.
Mais il savait tout ça. Peut-être aurait-il pu mettre en perspective les choses. 8 jours après, tous ces gens sont quand même dehors, dans la nature. Les conséquences politiques de cela, j'imagine qu'elles sont...
Les conséquences politiques, elles ne se sont pas fait attendre. Hein. Dès mardi, aux questions au gouvernement à l'Assemblée, il y a eu un échange très tendu avec une députée RN, Laure Lavalette, à qui il a répondu en jouant l'humaniste contre le RN.
Mais qu'est-ce qui se passe si dans la nature, ces gens font une infraction ou un délit ou autre chose que je n'ose imaginer ?
Ils vont avoir affaire à la loi tout de même.
Mais c'est entendu, mais vous avez quand même 200 personnes qui vont être dans la nature comme ça.
Oui, mais comme le disait Guillaume, on ne peut pas enfermer des mineurs et puis la justice s'est prononcée sur le cas des adultes.
Donc alors, on ne peut rien faire.
Je ne sais pas si on peut rien faire. Peut-être qu'il a manqué de prudence en disant très vite que 44 d'entre eux seraient expulsés. En tout cas, c'est sûr que c'est un mauvais timing pour lui. Surtout qu'il essaye un peu de rééquilibrer son image en ce moment.
Mais puisque, convenez que ça peut choquer l'opinion publique.
Bien sûr que ça peut choquer l'opinion. Mais
c'est tout ce que j'exprime là, ni plus ni moins.
Ce qui est certain, c'est que c'est la loi, que la loi peut être changée, mais qu'à ce stade, elle s'applique aujourd'hui avec ces migrants de l'Ocean Viking qui ont débarqué, donc on le rappelle, il y a une semaine maintenant à Toulon. Merci beaucoup Marie-Bénédicte, merci Guillaume.
Merci
à vous deux, et je ne doute pas que ce sujet puisse faire réagir les auditeurs entre 13h et 14h30. Dans un instant, comment vivre et suivre le mondial qui commence dans 2 jours. A tout de suite.
RTL pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi. Votre vie.
Votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre vie. Et aujourd'hui.
Ramenez la coupe à la maison. Allez, les bleus, allez.
4 ans.
On n'a pas gagné avec cette chanson. Hein.
Ah on a gagné il y a 4 ans avec celle-ci, parce qu'elle, je vous rappelle.
Ben justement, bon.
Non.
Je me souviens pas. C'est qui ?
C'est VG Dream.
Ah, ça m'a échappé.
Ah bon, c'est pas grave, il est temps de se rattraper. Hein. Alors, 4 ans après ce titre de 2018, connaîtra-t-on la même ferveur cette année ? La Coupe du Monde au Qatar débute après-demain, ce dimanche à 17h, avec le match d'ouverture Qatar-Équateur. L'équipe de France, elle, jouera mardi, ce sera contre l'Australie. Le mondial, c'est 32 équipes, 64 matchs, un seul vainqueur. Mais comment suivre la compétition ? Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
Ça commence, on vient de le dire, après-demain. D'abord, sur quelle chaîne on peut suivre ce match d'ouverture ?
J'ai d'abord tendance à vous dire sur RTL,
RTL.fr, à la radio évidemment, c'est gratuit. Pour ce qui est de la télévision, deux chaînes françaises sont diffuseurs officiels de la compétition, beIN Sport et TF1, qui retransmettra 28 rencontres au total, dont le match d'ouverture et la totalité des matchs des Bleus.
Est-ce que tous les matchs sont retransmis sur des chaînes gratuites ou il faut prévoir de s'abonner à une chaîne payant.
Mais c'est ça le problème, c'est que si vous comptez sur la télévision pour suivre la totalité des rencontres, c'est sur les chaînes payantes de beIN Sport, 15 euros par mois sans engagement. Pour TF1, pas de problème donc pour les matchs des Bleus, mais dans le tableau final, là où ça se corse, là où on espère voir les Bleus, eh bien vous avez logiquement les plus belles rencontres. La chaîne ne diffuse pas la totalité des huitièmes de finale, des quarts de finale. Il faudra attendre les demi pour être sûr de voir tous les matchs restants à la télévision sans payer. Mais je le rappelle, aucun souci sur RTL.
Vous parliez très bien. Vincent, vous êtes bien dans les clous. Vous parliez des matchs des Bleus. À quelle heure sont prévues justement les rencontres de l'équipe de France?
Alors, le premier, France-Australie, c'est mardi à 20h. France-Danemark, le samedi à 17h. Et le mercredi 30 novembre, Tunisie-France à 16h. Un mercredi à 16h, vous avez bien entendu, mais 2 heures de décalage avec le Qatar. On est plutôt chanceux, en tout cas sur les 3 premiers matchs de poule, puisque d'autres matchs seront retransmis à 11h, 14h, 16h. Et de toute façon, en phase finale, à part pour les demi-finales qui seront diffusées à 20h, les Bleus peuvent se retrouver à 16h sur la pelouse. Même la finale, on croise les doigts, se jouera à 16h, mais bon, c'est un dimanche.
C'est heure française, hein, bien sûr, parce qu'il y a
évidemment
Doha, c'est 2 heures de plus. Quand on va jouer à 20h ici, il sera 22h à Doha.
Exactement.
Si on ne veut pas rester dans son salon, est-ce qu'il y aura des fan zones?
Je vous en cite plusieurs, Pascal. Saint-Palais-sur-Mer en Charente-Maritime, Triel-sur-Seine dans les Yvelines ou Bondoufle en Essonne. Vous l'aurez compris, ce n'est pas les grandes villes qui ont décidé d'organiser des fan zones.
Il va faire un peu frais peut-être.
Il va faire un peu frais, ça dépend, couvrez-vous. Mais évidemment, ces grandes villes, Paris, Strasbourg, j'en cite quelques-unes, Lille, Bordeaux, ont décidé d'une politique zéro écran, zéro fan zone. Je cite Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. J'aurais vraiment l'impression, si Bordeaux accueillait ces fan zones, d'être complice, vous l'aurez compris, des décès sur les chantiers au Qatar et des problèmes liés à l'environnement, la climatisation des stades, etc. Si vous avez vraiment envie de ne pas vous retrouver seul dans votre salon, il reste les bars.
Et alors justement, les bars, ils s'adaptent, Vincent ?
Mais c'est très faible. Alors, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, la plus grosse organisation qui rassemble les bars, les restaurants, ne fait pas remonter de chiffres, pas forcément d'engouement, et n'a pas appelé ses adhérents au boycott. Je cite son président que j'ai eu il y a quelques minutes au téléphone. C'est il y a 10 ans qu'on aurait dû agir. Appeler au boycott, le vin est prêt à être tiré, on ne va pas le jeter dans la rigole. Mais on se rend compte, en tout cas à Paris, qu'il n'y a pas d'installation spécifique déjà mise en place et plusieurs pas de d'installation mise en place et plusieurs bars ont
ça
déjà
ça peut venir vite ça
peut venir
ça
vite.
Peut venir vite parce que si l'équipe de France gagne par exemple 5-0 et qu'elle est magnifique, ça peut aller très très vite.
J'espère.
Et on l'avait vu en 98 d'ailleurs.
J'espère, mais en 2018 c'était déjà prêt. Là c'est pas le cas, et ce qui est plus criant encore, c'est que il y a plusieurs bars dans la capitale qui ont décidé d'un boycott, qui ont déjà dit nous ne diffuserons pas les matchs. J'ai fait un petit recensement sur les réseaux sociaux, j'ai quasiment compté une centaine de bars, de restaurants qui se sont prononcés pour un boycott de la
compétition. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que les gens mentent? Parce que paraît-il qu'un quart des Français veulent boycotter des amateurs de foot. On sera avec Jean-Michel Rascol, ce sera un de nos sujets. Côté vente de téléviseurs, jadis,
mais oui,
quand il y avait une Coupe du Monde, on vendait des téléviseurs. Mais aujourd'hui, tout le monde a des téléviseurs.
Tout le monde a des téléviseurs où on passe à d'autres plateformes. La tablette, le smartphone, tout simplement. Mais
smartphone pour voir un match de foot. Hein.
Là encore, un petit marqueur, c'est que l'engouement est faible. Il y a par exemple le magasin d'Artibaud Grenelle à Paris. 15% de baisse de vente depuis le début de l'année, ça remonte à peine, il n'y a pas foule dans les magasins.
Bon, Vincent, vous aimez le foot ?
J'adore.
Bon, vous allez regarder ou pas ?
Évidemment.
Oui, donc pour vous, ça ne change pas. Virginie, vous aimez le football ? Virginie Garin qui entre dans ce studio. Vous aimez
Bonjour.
Le football ? Virginie,
pardon ?
Vous aimez le football ?
J'aime le football.
Bon,
et
vous
Virginie,
allez regarder la Coupe du Monde ?
Je pense que je vais regarder.
Et pour ceux qui l'écouteront, tous les soirs, 7 jours sur 7 pendant la compétition, c'est dès 20h sur RTL, on refait la Coupe du Monde, la soirée foot, à partir de 20h.
Il est 12h28, une pause, et l'info revient massivement à 12h30. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi. Il est 12h30.
RTL Midi,
le 12h30,
Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
L'amoxicilline, c'est l'antibiotique le plus prescrit en France et il pourrait bien manquer cet hiver. On vous dit tout dès le début de ce journal sur cette alerte qui inquiète les professionnels de santé. 26 mineurs isolés ont fugué, une centaine d'adultes libres de circuler car la justice n'a pas pu examiner leur dossier dans les temps. Une semaine après leur débarquement à Toulon, le sort des migrants de l'Ocean Viking reste au cœur de l'actualité et continue de diviser la classe politique. Jonathan s'entend bien avec Guy Georges au lendemain des déclarations de la mère de Jonathan Daval sur RTL. Nous vous emmenons dans la prison d'Ensisheim à 12h40. C'est là en Alsace que le meurtrier d'Alexia purge sa peine en compagnie des plus célèbres tueurs français. Une prison pas tout à fait comme les autres, vous l'entendrez. Dernière ligne droite pour les Bleus bien installés et heureux au Qatar, vous l'entendrez. Votre rendez-vous culture, LVT midi juste avant 13h. Aujourd'hui, Paul Naref chante Paul Naref. Le chanteur sort un nouvel album, seul au piano, et il se confie au micro de Steven Bellery. La question du jour sur notre site rtl.fr, alors que la SNCF annonce une hausse de 5% du prix des billets TGV. Cette question donc, prenez-vous toujours le train pour vos longs déplacements?
Et on en parlera à partir de 13h de tous ces sujets avec les auditeurs, bien évidemment. Nous échangerons également à 13h05 avec Jean-Michel Rascol. Près d'un quart des amateurs de football vont bouder la compétition, même si les Bleus vont loin. C'est ce que dit un sondage, mais est-ce que les gens, le public, ment? Voilà une question.
Elle ment jamais, elle. Claire Delorme, pour vous parler de la météo, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Claire?
Le ciel sera chargé sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Méditerranée. L'instabilité sera un petit peu plus marquée vers le sud-ouest et des températures en baisse, en moyenne 12 degrés à l'échelle du pays.
Merci Claire, la météo complète à la fin du journal.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
C'est le plus célèbre des antibiotiques, le plus prescrit aussi en France. Pénurie sur l'amoxicilline. Certaines pharmacies ont aujourd'hui du mal à se fournir. Virginie Garin, pour faire face dans l'immédiat, il va donc falloir lever le pied tout simplement sur les prescriptions.
Oui, pendant le Covid, lorsqu'on respectait les gestes barrières, la consommation d'antibiotiques avait chuté, donc les laboratoires ont moins produit. Mais depuis un an, surtout, les autres maladies sont revenues et les ventes d'antibiotiques ont à nouveau fortement augmenté. Il y a des tensions sur le marché mondial. Donc les autorités de santé vont dans la journée annoncer plusieurs décisions. Interdiction aux laboratoires d'exporter ces médicaments. Tout ce qu'on a en France, on le garde. Les pharmaciens vont être limités en nombre de boîtes qu'ils pourront commander. Et puis surtout, les médecins vont devoir moins en prescrire, car la plupart des ordonnances qu'ils font sont inutiles. Santé publique France vient de lancer une nouvelle campagne. Les antibiotiques ne servent à rien contre les virus. Ils sont efficaces uniquement contre les infections, les bactéries, d'où l'importance aussi des tests de dépistage en pharmacie, les TROD, pour savoir si une angine, une otite sont d'origine bactérienne. Là, on prend des antibiotiques, sinon ce n'est pas automatique.
Merci beaucoup Virginie. Gare à la coupure d'électricité cet hiver. RTE, le gestionnaire du réseau, durcit un peu le ton. Il y a désormais un risque de tension élevée, de tension en janvier. Le redémarrage des rédacteurs d'EDF est en effet plus long que prévu. Et puis si jamais le mois de janvier est très froid, RTE demandera sans doute aux Français de réduire leur consommation pendant quelques jours. On activera alors le dispositif d'alerte EcoWatt rouge. La hausse des prix de l'énergie, répercutée en partie par la SNCF, on vous le disait en titre, les tarifs des TGV augmenteront en moyenne de 5% à partir du 10 janvier.
RTL Midi.
Les États-Unis et le Japon ont effectué des exercices militaires conjoints, réaction au tir de missiles nord-coréens de la nuit.
Missile qui a échoué tout près des côtes japonaises, illustration de la tension croissante dans la zone. Le sujet est évidemment très présent à l'APEC, ce sommet qui réunit les pays d'Asie du Sud-Est et auquel participe Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui a d'ailleurs rencontré Mohamed Ben Salman ce matin, demandant à l'émir saoudien de faire pression sur la Russie afin de mettre fin le plus vite possible au conflit ukrainien.
Mais même en Thaïlande, Emmanuel Macron suit de près la situation nationale.
Et notamment cette polémique naissante au sujet des migrants de l'Ocean Viking. 26 mineurs isolés, on vous l'a dit, ont fugué. Une centaine d'adultes sont, eux, remis en liberté par la justice car leurs dossiers n'ont pas été traités dans les temps. Et du côté de l'Elysée, Bénédicte Tassard, on ne cache pas qu'il va falloir changer de logiciel et rapidement.
Oui, parce que ces mineurs sont une charge pour les départements par le biais de l'aide sociale à l'enfance. Ils ne sont pas incarcérés, pas incarcérables, pas expulsables. Et puis, il y a les demandeurs d'asile dont la charge doit être partagée avec les autres pays européens et enfin, ceux qui doivent rentrer chez eux. L'entourage du président entend bien que la pression migratoire est de plus en plus forte et que les règles européennes ne sont plus adaptées. Les dossiers sont instruits trop lentement. La réforme migration doit être présentée, je vous le rappelle, au Parlement en début de semaine prochaine.
Et Bénédicte, l'Élysée veut aussi un effort de la part de l'Italie.
Oui, parce que vous savez que Rome ne veut plus accepter les migrants illégaux. Pour l'exécutif, l'affaire Ocean Viking est un coup politique de Giorgia Meloni. Mais attention, en faisant du symbole, on détruit la confiance. La position italienne n'est pas tenable, selon Paris, qui appelle Rome à revenir à la table des négociations pour bâtir une politique migratoire européenne. Ils apprendront à le faire, même si les gouvernements des deux côtés des Alpes ont des valeurs différentes.
Bénédicte Tassard en Thaïlande pour RTL.
Emmanuel Macron qui a aussi lâché une petite phrase qui vous fera peut-être réagir les auditeurs. Petite phrase à propos du peuple français.
La France a beaucoup d'atouts. Ce qui rend ce pays si spécial, c'est qu'à l'opposé de l'image que l'on peut avoir des Français très fiers et parfois même arrogants, nous doutons beaucoup en réalité de nous-mêmes. Parfois peut-être trop, alors qu'on pourrait avoir confiance en notre futur.
Emmanuel Macron, donc, depuis la Thaïlande, qui parle de cette image de Français un peu arrogant.
Il est possible, effectivement, que ça fasse réagir. Les électeurs de droite n'ont pas oublié la bataille fratricide entre François Fillon et Jean-François Copé en 2012 et les péripéties de la COCOE, chargée de trancher entre deux hommes qui revendiquaient la présence de l'UMP. Eh bien, 10 ans plus tard, ce spectre revient.
Alors, on n'en est évidemment pas encore là. Mais à 15 jours maintenant du premier tour pour désigner le patron des LR, les couteaux s'aiguisent. Et la haute autorité qui veille au bon déroulement du scrutin a été saisie hier soir par Éric Ciotti, Marie Mollet.
Oui, le favori de l'élection, Éric Ciotti, s'est cabré hier soir. Il a déposé un recours auprès de son parti pour accuser son concurrent Bruno Retailleau de pratiques déloyales. Alors, à l'origine de la fâcherie, une consultation interne menée auprès de 2500 adhérents LR et organisée par l'ex-député Julien Aubert qui roule pour Bruno Retailleau. Résultat de la consultation, Éric Ciotti serait désormais devancé par son concurrent. Le camp Retailleau sort les trompettes et partage le résultat dans une newsletter officielle. Colère dans les rangs d'Éric Ciotti qui dénonce un sondage bidon et une volonté de truquer l'élection. Écoutez l'eurodéputé Geoffroy Didier.
Nous avons un soutien de Bruno Retailleau qui anime un petit club de fans et qui a organisé sa propre consultation au sein de son club. Donc vous imaginez bien que les scores sont totalement faussés. Ça veut dire qu'en fait, c'est une manœuvre électorale faite pour tromper l'ensemble des électeurs. On ne fait pas ce genre de choses quand on respecte les adhérents et les électeurs.
Alors la Haute Autorité doit encore statuer sur les suites qu'elle donnera à cette affaire. Mais dans le camp Retailleau, on veut y voir la preuve de la fébrilité d'Éric Ciotti. Il était sûr de gagner, il commence à douter. En tout cas, ce début de psychodrame sert de mise en bouche au débat entre les candidats lundi prochain et secoue une campagne jusqu'ici plutôt plan-plan, d'après les mots d'un député LR.
Marie Mollet du service politique de RTL.
RTL, Coupe du Monde 2022.
Le mondial commence après-demain, alors que Marie Mollet a failli faire tomber.
Elle est en train de casser le studio.
C'est parce que c'est le mondial. Mais c'est le mondial qui arrive, c'est pour ça. Alors, on n'a pas l'habitude, un mondial au mois de novembre. Mais pour celui des Bleus, le début, c'est mardi.
Exactement, les joueurs de Didier Deschamps qui affronteront alors l'Australie. Bonjour Philippe Sansfourche.
Bonjour.
Vous suivez ce mondial pour RTL depuis le Qatar, vous. Alors, vous aviez déjà suivi le précédent en Russie. Est-ce que l'on sent déjà le même esprit dans le groupe qu'en 2018, ce qui serait bon signe ?
Alors, pour être honnête, hein, ça fait seulement 4 jours qu'ils sont ensemble, mais on sent très vite hein, dans un groupe, si le courant passe bien, 4 ans après, il ne reste que 10 champions du monde hein, de 2018 sur les 26 joueurs présents au Qatar. Lucas Hernandez fait partie de cela et ses premières impressions sont plutôt positives.
On a un super groupe, le coach a pris 26 joueurs, des top joueurs de foot, mais aussi des top personnes. En dehors du terrain, on s'entend tous très bien. Ils nous ont mis dans les meilleures conditions avec l'hôtel qu'on a, avec les salles de jeu et tout. Alors, une fois que tout le monde s'entend très bien en dehors du terrain, après sur le terrain, ça se voit. Ça s'est vu en 2018 et j'espère que ça va se voir en 2022 ici au Qatar.
Alors, ça va évidemment devoir se faire sans les danses, les prises de parole de Paul Pogba, sans la sono plein pot de Presnel Kimpembe, sans les continuelles blagues d'Adil Rami. De nouveaux animateurs vont devoir se révéler pour souder les générations entre elles. Pas toujours évident quand les Giroud, Loris, Mandanda peuvent parfois compter plus de 15 ans hein, d'écart avec les plus jeunes dans ce groupe.
Merci beaucoup Philippe Sansfourche. Et puis, mauvaise nouvelle pour vous, hein, les autorités du Qatar et la FIFA ont décidé d'interdire la vente d'alcool aux supporters autour des stades. Attends, pas de sobre, bière donc, Philippe. Avant de commenter les matchs, Philippe.
Il est sobre. D'ailleurs, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un regard sur, précisément, par exemple, sur l'alcool au Qatar? Est-ce que
il y a une ambiguïté, puisque c'est pas planqué, c'est juste qu'il y a des hôtels dans lesquels il se sert de l'alcool, d'autres dans lesquels il ne s'en sert pas. Il y a même des noms de code, c'est-à-dire que en anglais on dit qu'un hôtel est wet ou dry selon qu'il y a de l'alcool ou pas servi.
On va vous suivre évidemment durant tout ce mondial en espérant que la France aille le plus loin possible.
Un mot de hand, puisque là aussi on espère que les Françaises iront le plus loin possible, et le plus loin ce sera évidemment la finale de l'Euro. Pour ça il faudra battre la Norvège ce soir, les Norvégiennes championnes du monde en titre. Ce sera à partir de 20h30. La météo, on vous retrouve Claire Delorme pour un après-midi tout gris.
Exactement, tout en nuances de gris, ça sera surtout instable en direction de la Manche et tout le long de l'arc atlantique où les averses seront plus nombreuses. L'instabilité sera bien de mise sur le sud-ouest et particulièrement au niveau des Pyrénées et du Pays Basque, avec des pluies non seulement plus nombreuses avec des cumuls de pluie donc plus conséquents et en prime un coup de tonnerre par endroit. Partout ailleurs en revanche, ça sera certes chargé mais avec des averses qui auront tendance à se rarifier. On pourrait même voir d'ailleurs quelques timides éclaircies pointer le bout de son nez. D'ailleurs, les éclaircies elles seront plus franches en direction du centre Val-de-Loire vers le bassin parisien, avec un temps en prime généralement beaucoup plus sec. Là où le soleil sera de mise et toute l'après-midi jusque dans la soirée, eh bien, ça sera près de la Méditerranée, donc les Alpes du Sud, la Provence, le Languedoc-Roussillon, la Corse, mais toujours avec du vent quand même, hein, jusqu'à 100 km/h localement pour les caps les plus exposés de Corse. Quant aux températures, eh bien, ça y est, elles commencent à baisser. Elle baisse d'ailleurs notablement là encore dans le sud-ouest, puisqu'on a perdu ne serait-ce que 5 degrés entre la veille et là cet après-midi. On observera des maximales de 14 degrés vers Cognac, La Rochelle, Bordeaux, mais également Toulouse, 13 degrés à Biarritz. Partout ailleurs, là aussi, le mercure baisse. Nous aurons 12 degrés à Lille, 10 degrés à Rouen, 12 degrés à Paris, 11 degrés à Nevers. Et tout de même, nous conservons la barre des 20 degrés près de la Corse, que ce soit pour Bastia ou encore Ajaccio.
Merci Claire. Dans un instant, on vous emmène dans la prison d'Ensisheim en Alsace. C'est là qu'est détenu Jonathan Daval. Sa mère a confié sur RTL qu'il s'entendait très bien avec Guy Georges. Ça a beaucoup surpris. Visite guidée de cette prison pas comme les autres dans un instant avec Yannick Holland.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
C'est un témoignage qui a fait beaucoup réagir depuis sa diffusion hier soir sur l'antenne d'RTL, celui de Martine Henry, la mère de Jonathan Daval, qui était l'invité de Julien Cellier.
Dans cette prison où il est en ce moment, en Alsace, il y a Guy Georges, Francis Holm, Patrice Allègre, Nordal Lelandais parmi les co-détenus. Est-ce que la maman que vous êtes est inquiète de le savoir dans cet environnement, à côté de ces noms dont on a tant entendu parler ces dernières années?
Non, je ne suis pas inquiète du tout, parce qu'il s'entend très bien avec Guy Georges. Oui, je ne m'attendais pas à ça, vous voyez, comme quoi qu'ils ont fait des choses très horribles, hein, Guy Georges. Non, je ne suis pas inquiète du tout.
Et votre fils, est-ce que vous avez l'impression qu'il change en prison?
Il est bien dans sa tête, il est mieux. Il travaille, il fait du sport, il est bien.
Martine Henry, donc la mère de Jonathan Daval, incarcérée dans cette prison d'Ensisheim en Alsace. Bonjour Yannick Holland.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos correspondants dans l'Est et vous êtes allé plusieurs fois en reportage dans cette prison. D'abord, à quoi elle ressemble ?
Eh bien, ce qui peut surprendre d'abord, c'est que c'est une prison installée en plein centre-ville d'Ensisheim, à deux pas de la mairie. C'est un ancien collège jésuite transformé en prison sous Napoléon en 1811. Elle est même classée monument historique. Il y a donc de vieux bâtiments assez vétustes qui ont été adaptés pour l'accueil de ces détenus particulièrement dangereux. Il y a 200 places réparties dans des cellules d'environ 8 mètres carrés.
Et elle abrite certains des détenus effectivement les plus célèbres de France, dont Guy Georges.
Eh oui, en fait, on y retrouve les pires criminels et pires tueurs en série de France, et plus particulièrement les auteurs de crimes à caractère sexuel. Francis Holm, Guy Georges, Nordal Lelandais a également été transféré ici récemment, mais avant eux, il y a eu Michel Fourniret ou encore Émile Louis. Au total, il y a actuellement 189 détenus pour 200 places, avec une concentration donc de profils extrêmement dangereux. Il y a des dizaines de condamnés à perpétuité, et les autres doivent purger des peines entre 10 et 30 ans de prison, donc on retrouve uniquement des longues peines.
Ça veut dire qu'il y a une sécurité particulière, Yannick, puisque les noms que vous nous avez cités
l'exigent. Évidemment, la sécurité est maximale vu la dangerosité du public, mais paradoxalement, Ensisheim est un établissement plutôt calme, car les détenus savent qu'ils sont là pour très longtemps. Et donc ces grands noms du crime ne sont pas ceux qui posent le plus de problèmes au quotidien en détention. Un surveillant m'expliquait en fait que ces tueurs, ces auteurs de crimes sexuels étaient souvent insérés socialement avant leur condamnation, et donc on peut avoir une conversation tout à fait normale avec eux. Il me disait, ils n'ont pas la haine du surveillant, la haine du bleu, contrairement à des détenus qu'on peut avoir en maison d'arrêt. C'est donc une relation qui peut être un peu bizarre, mais en tout cas, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier qui on a en face de soi. C'est la clé de la sécurité. Ne jamais tomber dans la routine face à ces détenus, même s'ils sont très calmes au quotidien.
Mais ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'on a le sentiment, en écoutant Madame Henry, que ces gens se croisent, que Guy Georges, Nordal Lelandais, Francis Holm et Jonathan Daval puissent, pourquoi pas, même déjeuner ensemble ou travailler ensemble. Est-ce que c'est une réalité?
Oui, exactement. En fait, parce que c'est une prison qui n'est pas surchargée comme les maisons d'arrêt. Et donc, les détenus se croisent notamment lorsqu'ils travaillent. Dans les ateliers, on m'expliquait qu'il y avait à Ensisheim, par exemple, plus de détenus qui travaillaient que dans une maison d'arrêt. En fait, il faut occuper ces détenus à de très longues peines, les occuper pour éviter qu'ils ne disjonctent et deviennent particulièrement dangereux. Alors il y a ces ateliers où ils travaillent, il y a aussi des activités artistiques ou sportives. On sait que Guy Georges, par exemple, faisait de la musique à Ensisheim. Et puis un gardien me racontait aussi ce souvenir marquant pour lui, hein, d'une partie de pétanque entre Guy Georges et Émile Louis dans la cour de la prison. Il me disait, évidemment, ce sont des scènes impossible à entendre pour les familles des victimes, mais c'est la réalité de ce qui se passe dans cette prison.
Bah merci beaucoup Yannick Holland pour cet éclairage effectivement assez surprenant pour le commun des mortels sur ce qui se passe dans cette prison d'Ensisheim.
Et cet univers carcéral est déjà toujours un peu fascinant, et par les personnalités qui y sont, votre témoignage et notamment la dernière image que vous venez de donner, cette partie de pétanque avec Guy Georges et Émile Louis, bien sûr que ça peut sidérer. Merci en tout cas de ce reportage, merci de ce témoignage Yannick Holland. Et dans une seconde, nous allons parler de Michel Polnareff. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi. Steven Bellery va entrer et chanter avec nous Polnareff.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Pro. RTL, laissez-vous tenter midi.
C'est une poupée qui fait non, non, non.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, une légende de la chanson française que vous avez reconnue, Steven. Bonjour. Mais là, ce qu'on entend, c'est le nouvel album.
Exactement.
C'est le nouvel enregistrement.
Bah oui, La Poupée qui fait non, chanson composée à la guitare sur les marches de Montmartre. C'est la première fois véritablement qu'il la chante intégralement au piano. C'est tout le principe de ce nouveau disque.
Qui s'appelle Polnareff chante Polnareff. 12 reprises, effectivement, de ses propres chansons, interprétées seules au piano. Polnareff, 78 ans, est donc en France pour la première fois depuis 6 ans, Steven, et il vous a accordé, petit Bénard, l'une de ses rares interviews.
Ouais, la dernière fois que j'avais vu Michel Polnareff, c'était à Las Vegas. Il avait choisi la ville du vice pour défendre enfin son premier album d'inédit en 28 ans. 4 ans plus tard, l'iconique chanteur à lunettes revient en piano solo et avec ses tubes.
Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin. Je pense à toi tout bas.
Projet casse-gueule, mais dont ses fans, les fameux moussaillons, rêvaient depuis toujours. Pour de multiples raisons, Michel Polnareff hésitait avant de déshabiller ses chansons.
J'avais un peu le trac, parce que je me disais, attention, est-ce que je sais encore chanter? Vous savez, c'est comme un boxeur qui n'a pas boxé pendant 5 ans, il se dit, attends, est-ce que ma droite, elle est toujours bonne? Est-ce que ma gauche, elle suit? On rouille un peu, quelque part. Et j'étais pas sûr qu'il fallait faire ça. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ah tiens, Polnareff, il a plus d'inspiration, il sort les vieux cajots. Et j'avais, disons, un peu la troute de me faire face. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, la voix était toujours là, que contrairement à ce qu'on peut croire, je monte toujours.
Êtes le premier surpris?
Je dirais pas surpris, je dirais rassuré.
Le titre
titre de l'album, il est génial. Polnareff chante Polnareff. C'est une de vos idées?
Oui. Vous savez, je dis souvent qu'il y a Michel et il y a Polnareff. Là, c'est Polnareff et Polnareff.
Et c'est quoi la différence entre Michel et Polnareff?
Bah, Michel, c'est le copain. Michel, c'est le mec de tous les jours. Polnareff, c'est le mec qui met son costume de lumière pour être différent d'un Michel de tous les jours.
Et parfois, Michel et Polnareff s'engueulent ou pas?
Alors, c'est pas tellement qu'ils s'engueulent parce qu'ils s'aiment beaucoup tous les deux. Hein. Ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Mais disons que des fois, ils sont pas tout à fait d'accord. Mais engueulade, non, ça se termine bien.
Ma ville, goodbye, ma ville.
Vraiment une des chansons préférées de ceux qui aiment Polnareff, Goodbye Marilou. Polnareff a enregistré chez lui en Californie et sans aucun artifice.
Un petit peu de réverb parfois, rien de plus. L'album sonne, résonne, on entend les pédales de son piano, on entend Michel reprendre sa respiration. Un disque intime, presque un album de duo entre Polnareff et son piano.
C'est moi à poil, devant le piano, l'auditeur qui est assis à côté de moi. Il est dans mon salon. C'est un retour vers le futur, un futur vers le retour. Ce que j'avais peur, c'est que ce soit emmerdant, qu'on s'emmerde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toutes les choses dont je suis fier, tous les arrangements. Mais le truc qui est intéressant, c'est que tout à coup, moi-même, j'étais surpris de redécouvrir des textes. On a, disons, choisi une liste de ce que j'appelle les incontournables.
Je serai pendu demain au jour, dommage pour la fille de ce château.
Pourquoi vous avez enregistré chez vous, à votre piano, à Palm Springs, et pas dans un studio avec le confort d'un studio?
Si je suis dans un studio professionnel, il se trouve que j'en ai un professionnel chez moi, mais bon, il y a des horaires, des machins, des trucs, etc. Moi, tout à coup, j'ai envie de le faire. Je le fais, que ce soit la nuit, le jour, le matin, la tête à l'envers, la tête au moment où j'ai envie, et pas quand il faut.
Vous jouez du piano depuis l'âge de 4 ans. Vous diriez quoi, que c'est votre plus vieil ami, le piano, aujourd'hui?
Ça a commencé à être mon pire ennemi. Il m'a gâché toute mon enfance. Le truc le plus important pour moi, ça a été de désapprendre et que je rentre dans le rock et dans le pop.
On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira.
On ira tous au paradis.
Il n'y a pas que le piano, là.
Ah si, il n'y a que ça. Chanson qui fête ses 50 ans cette année. Il n'y a que du piano, de la réverb, et c'est tout.
On ira tous au paradis, dont une des reprises les plus célèbres est peut-être celle de Zidane, rappelez-vous. C'était dans Les yeux, dans les bleus, en 98. Michel Polnareff qui repart donc en tournée dès le mois de mai, Steven.
Coup d'envoi à Nice le 24 mai, Paris-Bercy le 2 juillet, concert en scène centrale avec une partie piano-voix. Et si Michel y glissait une chanson inédite, tiens, pas impossible tant il a composé ces dernières années.
Quand je compose, je pense pas à ce que ça va devenir. Je sais pas d'où ça vient. Malheureusement, ça se passe très souvent pendant que je dors. Je dois me lever et écrire des choses, parce que sinon j'oublie ce que c'était. Parce que j'ai essayé le dictaphone, j'écoute le truc le lendemain, et j'en passe. Donc je me lève, j'écris des partitions. J'aimerais bien savoir comment.
C'est-à-dire que les mélodies ont encore des secrets pour vous.
C'est plus les harmonies qui ont un secret. Mais les mélodies, non. Les mélodies, c'est instantané. Pour moi, peut-être encore plus que jamais.
Polnareff chante Polnareff. L'album sort aujourd'hui. La billetterie pour sa tournée a déjà ouvert.
Dernière chose, quand il dit je me lève à 3h du matin pour enregistrer comme je veux, il est tout seul ou il y a quand même un technicien?
Alors là, pour la période vraie, véritablement, où il a enregistré, il y avait un technicien qui était là quand même pour pousser les boutons, parce qu'il peut pas tout faire tout seul quand même.
Je vous avertis également que tous les auditeurs qui interviendront ce vendredi à l'antenne recevront précisément le vinyle en édition limitée Polnareff chante Polnareff que
joli
vous avez
cadeau.
Dû voir. L'artiste de légende Polnareff reprend ses plus grands succès en version piano-voix inédite, comme on vient de le dire depuis quelques minutes avec Steven Bellery. Merci. La pause, les auditeurs, du football, Polnareff si vous voulez, les migrants, la petite phrase d'Emmanuel Macron. Voilà le programme. À tout de suite.
RTL Midi.